Midi 32 sur France Culture. Le journal Camille Manière, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Quelle solution réelle pour empoigner la crise migratoire? Emmanuel Macron reçoit dans une heure le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte, dont il dénonçait au début de la semaine le cynisme et l'irresponsabilité. Les deux hommes aujourd'hui veulent afficher leur volonté de travailler ensemble, mais avec quelle marge de manœuvre? Analyse avec Marie-Pierre Véraud en début de journal, où nous ferons le point également sur la situation humanitaire à bord du navire de SOS Méditerranée, l'Aquarius, qui ne devrait pas rejoindre Valence en Espagne avant dimanche matin. Pas vraiment de réconciliation dans l'air à la SNCF. La CGT Cheminots annonce qu'elle va poursuivre la grève au mois de juillet, et ce avant même la réunion de cet après-midi au ministère des Transports. Syndicats et direction doivent y négocier la convention collective ferroviaire qui va remplacer le statut de cheminot après 2020. Les télévisions privées et publiques en France qui s'allient pour rivaliser avec Netflix. L'ambition est grande, elle n'est pas nouvelle, il faut bien le dire, mais elle devrait aboutir finalement autour d'une alliance entre France Télévisions, TF1 et M6. Une voix qui va se perdre dans les profondeurs d'un trou noir, c'est celle de l'astrophysicien Stephen Hawking, décédé au mois de mars, enterré tout à l'heure dans le Panthéon britannique. Un enregistrement de sa voix de synthèse est en parallèle envoyé dans l'espace. Simple hommage ou expérience scientifique posthume, nous poserons la question à l'astrophysicienne Isabelle Boisse. Et puis l'invité de la séquence interview de ce journal, c'est Enda Ayari, la première à avoir déposé plainte pour viol contre Tariq Ramadan. Elle vient de publier Plus jamais voilée, plus jamais violée aux éditions de l'Observatoire. L'invité de la deuxième partie de la grande table,
ce
Olivia.
Sera le sociologue Nicolas Davout. Avec lui, nous reviendrons sur les grandes lignes de la nouvelle politique sociale annoncée d'Emmanuel Macron entre efficacité des aides et responsabilité des aidés. Il sera avec nous à partir de 12h57.
La crise migratoire qui n'en finit donc pas de fissurer l'édifice européen. C'est à présent d'Allemagne que nous vient un dernier rebondissement dans ce dossier. L'Allemagne où la grande coalition menée par Angela Merkel semble sur un point de rupture. C'est ce qu'annonçait il y a quelques instants le ministre de l'Intérieur allemand, qui annonçait donc la fin de cette coalition sur désaccord justement sur la question migratoire. Il est membre de la CSU qui était donc allié avec la CDU. À l'instant, la CDU dément la rupture donc avec cette grande coalition. On aura l'occasion de revenir sur ces soubresauts allemands liés, on le voit bien, à la crise migratoire qui secoue l'Europe. Une crise qui sera au cœur, il faut bien le dire, de ce déjeuner entre Paris et Rome. Emmanuel Macron qui reçoit dans un peu moins d'une heure à l'Élysée le président du Conseil italien Giuseppe Conte. Il dénonçait, on s'en souvient, en début de semaine, le cynisme et l'irresponsabilité du gouvernement italien quand celui-ci refusait de laisser accoster en Sicile un navire humanitaire avec plus de 600 migrants à bord. Aujourd'hui, donc, l'heure semble à la réconciliation des deux côtés des Alpes, tant le sujet, la crise migratoire qui fragilise l'Europe, est crucial. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour Camille.
Un dossier crucial, mais des interrogations sur les moyens d'action dont disposent réellement les Français et les Italiens pour remédier à cette crise. Au cœur de leur discussion ce midi, il y aura une fois de plus la question de la Libye, d'où partent, on le sait, et continuent de partir les embarcations de réfugiés.
Oui, c'est en tout cas l'un des axes de la discussion franco-italienne avant d'être sur la table du Conseil européen à la fin du mois, que l'Élysée souhaite mettre en avant. Paris rappelle les actions entreprises pour tenter de stabiliser la Libye. Ces réunions à Paris des deux hommes forts qui se partagent le territoire, le processus engagé pour ouvrir la voie à des élections en Libye, mais c'est un processus fragile et qui en plus prendra du temps. Or, les souffrances sont là, les traversées continuent, même si elles ont fortement réduit. L'équation libyenne, on en connaît les termes, ce que souhaite l'Europe et Paris comme Rome aussi, c'est tarir les traversées à tout prix. Au lieu de s'entendre pour ouvrir des voies légales d'accès au territoire européen, l'accent a été mis sur la coopération avec les gardes-côtes libyens formés, financés par l'Europe pour retenir ou ramener sur leur terre les migrants désespérés qui tentent la traversée. Emmanuel Macron avait par ailleurs caressé l'idée d'ouvrir des hotspots, des centres pour migrants en Libye. Il a finalement dû reculer, mais l'idée est toujours là de renforcer les frontières extérieures de l'Union et d'externaliser l'asile dans des pays hors Union européenne, au sud du continent, comme c'est le cas à l'est avec la Turquie.
Alors ces discussions sur la Libye, Marie-Pierre, est-ce qu'elles ne permettent pas aussi aux Européens de repousser leurs responsabilités sur l'accueil dans l'Union européenne de ceux qui continuent d'arriver sur nos côtes?
Peut-être la Libye n'est en tout cas pas le nœud du problème, c'est le dernier pays par lequel transitent les migrants en quête de sécurité en Europe. Alors Paris et Rome veulent aussi agir en amont, accroître l'aide au développement des pays d'origine par exemple, mais la question cruciale, tout le monde la connaît, c'est une réforme de la l'asile et avant tout des accords de Dublin qui font porter exclusivement au pays d'entrée, en l'occurrence l'Italie, la responsabilité de traiter les demandes. C'est l'absence de solidarité de l'Europe face à la péninsule qui a causé d'abord la montée du populisme en Italie, ensuite cette dernière crise entre Paris et Rome. Or, l'Italie plaide toujours en vain. Paris devrait plutôt soutenir des quotas de répartition des réfugiés dans les différents pays européens. Une solution qui, on le sait, n'a aucune chance de voir le jour, du moins si ces quotas sont obligatoires. Il serait sans doute plus réaliste de réformer Dublin, mais il semble qu'une fois de plus, cela ne soit reporté aux calendes. On devrait donc s'entendre avec l'Italie sur la fermeté, sur la solidarité, cela reste à voir.
Marie-Pierre Véraud, merci beaucoup sur la question allemande dont je parlais en début de journal. À l'instant, on apprend d'un porte-parole donc, du ministre de l'Intérieur de la CSU que sa déclaration selon laquelle il mettait fin à l'alliance avec la CDU et donc au gouvernement d'alliance mené par Angela Merkel émanait d'un autre compte Twitter que celui du ministre et donc que ses propos ne sont pas véridiques. Et pendant que nos dirigeants mettent en scène leur réconciliation entre Paris et Rome, on le disait, l'Aquarius et ses naufragés, eux, poursuivent leur périple en Méditerranée. Le navire de l'ONG SOS Méditerranée avec, on le rappelle, 629 personnes à bord n'est pas attendu avant dimanche dans le port de Valence où les autorités espagnoles ont bien voulu accepter de l'accueillir. Les tergiversations européennes ont créé à bord une situation humanitaire qui est très préoccupante. Il a fallu hier soir ravitailler le navire en mer. Alors quelles sont les conditions de survie à bord de l'Aquarius? Véronique Roberotte a posé la question à Antoine Laurent. Il est le responsable des opérations maritimes de SOS Méditerranée.
Alors à bord, on a un espace pour les femmes, les enfants et les blessés. Un espace où on peut mettre 60-80 personnes à l'intérieur, une salle climatisée. Ensuite, on a deux cliniques avec où on met les blessés les plus graves qui ont besoin d'un soin permanent. Et puis le reste dorment sur le pont. On a installé des abris avec pour protéger de la pluie, du soleil et du vent, avec des appareils pour chauffer un peu la nuit, si c'est un peu venteux. Mais quand on a plus de 500 personnes, en fait, il y a une partie des personnes qui sont obligées d'être complètement à l'air libre. C'était le cas pendant 3-4 jours en début de semaine, qui sont obligés de se mettre sur la plage avant et ils étaient brûlés par le soleil. Et puis là, quand on a eu la traversée entre la Sicile et la Sardaigne, où il y a eu pas mal de vent, on a été obligé de rentrer tout le monde à l'intérieur. Donc toute la nuit, ils étaient tous entassés dans cette petite salle qu'on a prévue pour les femmes. Donc c'est vraiment des conditions de voyage vraiment pas confortables pour ces gens qui méritent beaucoup mieux que ça. On arrive à garder la situation stable, hein. De toute façon, c'était difficile de faire pire. On a la chance quand même d'avoir une grosse équipe sur l'Aquarius, mais malgré tout, la façon dont on a préparé l'Aquarius n'est pas du tout celle qui est en face de nous. C'est-à-dire que nous, on est conçu pour faire du sauvetage d'urgence, pour avoir des personnes jusqu'à 500-600 personnes pendant 3 jours grand maximum. Là, on dépasse toutes les limites. Les gens ont reçu de la soupe en sous-vide, des biscuits qui nourrissent en urgence. Et c'est uniquement de la nourriture pour tenir le plus longtemps possible. Mais ça n'a rien d'un traitement sanitaire adéquat, comme on peut en avoir dans les hôpitaux ou dans des centres d'hébergement. Je veux dire, ces personnes ont parcouru des centaines de kilomètres dans le désert, en Libye, et ont eu le traumatisme de la traversée. Et là, ils se retrouvent encore pendant une semaine sur un bateau à manger lyophilisé et à manger des biscuits secs. C'est inacceptable. Donc, ils sont bien obligés de subir. Hein. Ils vont pas sauter à l'eau, même si certains ont menacé de le faire parce qu'ils avaient peur de retourner en Libye. Il y a une vraie indignation qui s'est installée à bord. Hein.
Antoine Laurent de l'ONG SOS Méditerranée qui répondait aux questions de Véronique Roberotte. La France n'intervient pas militairement au Yémen, mais elle étudie en ce moment une possible action de déminage dans le port d'Odeida. Voilà ce qu'indique ce matin le ministère des Armées alors que se poursuit l'offensive des forces loyalistes yéménites appuyées par leur allié saoudien dans ce port d'Odeida sur la mer Rouge, particulièrement stratégique parce que c'est là que transite le plus gros de l'aide humanitaire internationale pour les populations du Yémen. Les forces pro-gouvernementale, elle s'apprête à donner l'assaut sur l'aéroport d'Odeida qui se trouve tout près du terminal portuaire. Au Cachemire indien, l'assassinat d'un journaliste très en vue, Shujat Bukhari, a été tué hier au pied de l'immeuble de son journal anglophone, le Rising Cachemire. Il a été abattu à bout portant, tout comme l'un de ses gardes du corps, par des hommes armés qui ont pu prendre la fuite dans les rues de Srinagar. Les menaces contre la presse sont permanentes dans les parties indiennes mais aussi pakistanaises du Cachemire, une région pour laquelle l'ONU réclamait hier l'ouverture d'une enquête internationale sur les violations des droits de l'homme qui sont commises par les deux pays qui se disputent la région depuis 1947. Plus au nord cette fois, la frontière entre Pakistan et Afghanistan, la mort annoncée par Kaboul du chef des talibans pakistanais, le mollah Fazlullah, a été tué, nous apprend-on, dans un raid de l'aviation américaine dans la province afghane de Kunar. Midi 42, quelle convention collective pour les travailleurs du rail après le 1er janvier 2020? À cette date, les nouveaux embauchés du secteur ferroviaire ne bénéficieront plus du statut de cheminot. Ça s'est acté depuis hier avec le vote définitif de la réforme ferroviaire au Parlement. Pour la suite, donc, syndicats, SNCF et gouvernement vont se réunir à 14h pour définir ce nouveau cadre social. Bonjour Eva Jednak.
Bonjour Camille.
À la table des négociations tout à l'heure, donc, va se présenter une intersyndicale que l'on dit fragilisée. Et ce matin, la CGT Cheminot a annoncé toute seule qu'elle va continuer la grève au mois de juillet. Voilà qui ne consolide vraiment pas l'unité syndicale.
Oui, cette annonce d'ailleurs est plutôt étonnante puisqu'il y a deux jours, la ligne, c'était plutôt maintenir l'unité à tout prix. Après une rencontre de plusieurs heures avant-hier, l'intersyndicale avait annoncé que la poursuite ou non de la grève serait décidée à l'issue de la table ronde tripartite. Elle avait même prévu une annonce en début de semaine prochaine pour pouvoir se laisser ce week-end le temps de la concertation. Difficile donc de dire si cette déclaration de la CGT Cheminot était prévue. Elle apparaît plutôt comme un coup de pression de dernière minute. On l'écoute, Laurent Brun, le secrétaire général de la CGT Cheminot, c'était ce matin sur France Info.
Ce qui est sûr, c'est que pour ce qui concerne la CGT, nous l'avons annoncé, nous allons poursuivre sur le mois de juillet. Combien de temps on verra, comment on verra, mais il n'est pas question de s'arrêter au calendrier, puisque le gouvernement, lui, souhaite passer en force malgré la réalité des faits. Nous avons le mandat des cheminots de continuer la bataille sur la question de cette réforme, parce que vraiment, c'est une mauvaise réforme.
Et également invité de France Info ce matin, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, il a répondu. La CFDT, elle, s'en tient au calendrier.
Il y a la fin d'un épisode qui est prévu le 28. La CFDT cheminot se positionnera à ce moment-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra à un moment donné passer à d'autres formes de discussion et de mobilisation. Parce que vous savez, la mobilisation syndicale, ça ne se mène pas simplement par la grève.
Les autres syndicats n'ont pas tardé à réagir eux aussi aux propos de la CGT. Ils regrettent une décision unilatérale, inadaptée et irrespectueuse même pour l'UNSA. Le gouvernement et le patronat auront donc face à eux cet après-midi une intersyndicale plus que divisée.
Eva Jednak, merci à vous. Préserver l'emploi à tout prix. Trois syndicats de l'usine PSA de Vesoul ont signé hier soir avec la direction un accord dans lequel ils renoncent aux 35 heures. Ils concèdent une augmentation de plus de 8% du temps de travail et le tout sans compensation complète de salaire. La priorité des salariés à Vesoul, c'était de rester dans le giron de PSA, justifie la CFTC qui est signataire. La CGT, elle, qualifie cet accord de honteux. Où l'on reparle d'un Netflix à la française. Ce matin, c'est France Télévisions qui s'allie avec TF1 et M6, et ce pour lancer une plateforme commune de vidéos en ligne, une plateforme qui va s'appeler Salto et qui va permettre, moyennant un abonnement à près de 5 euros par mois, de voir ou de revoir tous les programmes des différentes chaînes. Il s'agit donc, nous dit-on, d'aller reconquérir les téléspectateurs français qui désertent le PAF pour céder aux offres du géant américain Netflix. Bonjour Hugo Chesinski.
Bonjour Camille.
On va le dire d'emblée, elle n'est pas vraiment nouvelle, cette ambition d'un Netflix à la française, et ça fait des années qu'elle peine à se mettre en place.
Oui, déjà en 2014, les trois principaux groupes privés de télévision français, TF1, M6 et Canal+, exprimaient leur crainte de voir arriver des géants comme Netflix ou Amazon dans leur secteur. Force est de constater qu'ils avaient eu raison. Orange, France Télévision, TF1 et M6 avaient été en négociation dès 2015, sans succès. Au CS, le service de vidéo à la demande d'Orange surfait sur le succès de la fameuse série Game of Thrones, donc évidemment pas question pour le géant des télécoms de mettre en commun sa pépite avec les autres. En tout cas, ces négociations de 2015 avaient été l'occasion d'amorcer un début de réflexion et France Télé avait alors déclaré qu'ils auraient été heureux de participer à un projet comme celui-là.
Mais ce qui fait la force, la plus-value de Netflix, Hugo, ce sont les programmes originaux, les séries et les films que Netflix produit lui-même. Est-ce que France Télé, M6, TF1 vont se donner les moyens de rivaliser dans ce domaine?
En novembre dernier, Delphine Ernotte avait plaidé pour une équipe de France de l'audiovisuel. L'objectif annoncé était vraiment d'aller concurrencer Netflix sur son terrain, car tous l'ont bien noté, c'est sur la création originale que se situe le véritable marché à prendre. TF1 et France Télévisions représentent près de 75% de la création audiovisuelle en France et ils ne comptent pas s'arrêter là. Les trois partenaires se disent ouverts à ce que d'autres chaînes les rejoignent. L'objectif est de mutualiser les moyens de production pour proposer, je cite, une variété de programmes sans égal. Le problème, c'est que les moyens mis sur la table risquent de ne pas être les mêmes. Pour la seule année 2018, Netflix avait annoncé investir entre 7 et 8 milliards d'euros dans ses créations. Pas sûr que le budget soit le même pour Salto.
Hugo Chesinski. Le Royaume-Uni s'apprête à rendre le plus prestigieux des hommages tout à l'heure à Stephen Hawking, l'astrophysicien décédé. Le 14 mars va être enterré en l'abbaye de Westminster, c'est le Panthéon britannique où il va reposer entre autres aux côtés de Newton ou de Darwin. Et puis il y a aussi l'hommage rendu par la communauté scientifique avec cet enregistrement de la voix de Stephen Hawking, cette voix de synthèse si caractéristique qui va être envoyé dans l'espace, précisément en direction d'un de ces trous noirs auxquels l'astrophysicien avait consacré une grande partie de ses recherches. Une démarche plus symbolique que scientifique, selon Isabelle Boisse, elle est astrophysicienne au laboratoire d'astrophysique de Marseille.
Alors, je pense qu'il y a un défi par rapport aux propres théories que Stephen Hawking avait formulées, comme quoi on pourrait sortir du trou noir. Donc je pense que c'est un clin d'œil, mais c'est un test à sa propre théorie, d'envoyer sa voix à travers ce trou noir pour peut-être qu'elle s'en aille et qu'elle aille ailleurs. L'envoi en soi, scientifiquement, il n'est pas compliqué du tout. Hein. C'est juste on utilise une antenne radio et on va transformer son son en vibrations qui vont traverser l'espace. Donc ça, c'est ce qu'on fait très couramment quand on envoie un satellite et qu'il récupère des données, il nous les renvoie de la même façon. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans le texte qui est envoyé. Je crois que c'est un mélange avec de la musique. Ça parle déjà de notre position et puis du fait qu'il y ait des humains sur Terre, de la vie. Alors effectivement, on peut se poser la question d'envoyer comme ça dans l'espace, de dire où on est et où on est situé. C'est quelque chose que je trouve qui devrait se discuter avant de dévoiler notre position, parce que s'il y a des vies à l'extérieur, elles ne sont pas forcément bienveillantes. Et donc, c'est quelque chose à faire ensemble et pas seulement du fait de la décision d'une personne.
L'astrophysicienne Isabelle Boisse, jointe par Tiphaine Honoré pour France Culture. Et pour la séquence interview aujourd'hui, nous sommes avec Enda Ayari. Bonjour à vous.
Bonjour.
Votre nom est associé aux plaintes pour viol et agression sexuelle contre Tariq Ramadan. C'est vrai que vous avez été la première en France à identifier votre agresseur sur les réseaux sociaux. C'était en octobre dernier, en pleine vague MeToo. La première aussi à déposer plainte pour viol contre l'islamologue qui, on le rappelle, est désormais sous le coup de 3 plaintes en France, une en Suisse et une aux États-Unis. Tariq Ramadan, qui est en détention provisoire depuis le début du mois de février à la prison de Fleury-Mérogis. Et si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour parler du livre que vous publiez aux éditions de l'Observatoire et qui s'intitule « Plus jamais voilé, plus jamais violé ». Je salue également Christine Moncla. Bonjour Christine.
Bonjour Kim.
À mes côtés pour vous interroger, Enda Ayari. Donc ce livre, il s'ouvre sur ce moment où vous avez décidé de dénoncer publiquement Tariq Ramadan. Ce post sur Facebook qui allait déclencher un tourbillon autour de vous, on va en parler. Vous aviez refusé depuis des années de donner le nom de votre agresseur. Qu'est-ce qui finalement vous a convaincu ?
En fait, ça s'est passé comme un déclic. Quand il y a eu la grande campagne contre les agressions sexuelles suite à l'affaire Weinstein et ensuite sur les réseaux sociaux, le hashtag balance ton porc, MeToo, j'ai ressenti le besoin à ce moment-là de raconter ce que j'avais vécu, parce que je pensais à ce moment-là que c'était le moment ou jamais, et que si je le faisais pas à cet instant précis, j'aurais jamais le courage de le faire par la suite.
Depuis, effectivement, il y a eu ce tourbillon autour de vous dont parlait Camille, et vous avez aussi reçu plusieurs menaces publiques sur les réseaux sociaux. Récemment, votre voiture a été dégradée, vous avez porté plainte, vous vous sentez menacée, vous avez demandé une protection. Est-ce que vous l'avez obtenue aujourd'hui?
En fait, depuis le départ, dès que j'ai dénoncé mon agresseur, j'ai subi des menaces, des insultes, j'ai été harcelée jusqu'à aujourd'hui. C'est extrêmement violent.
Et avez-vous obtenu cette protection que vous avez demandée?
À un moment donné, j'ai été très inquiète pour ma sécurité. Mmh. Effectivement, j'ai demandé à être protégée. Finalement, j'ai jamais obtenu de protection. J'ai été reçue par la police, qui m'a certifié que mon numéro de téléphone était parmi les numéros très sensibles, et que si jamais je les appelais, il y aurait une intervention très rapide. Voilà. Donc c'est pour moi, je pense que ça. Je ne sais pas si c'est suffisant, mais en tout cas, je ne veux pas vivre dans la peur. Je ne veux pas vivre, je veux vivre normal, le plus normalement possible. Et voilà, c'est ce que j'essaye de faire en continuant à m'exprimer, notamment sur les réseaux sociaux.
Alors, sur les raisons qui vous ont donc poussé à dénoncer publiquement votre agresseur, vous écrivez aussi que sans les attentats de novembre 2005, vous pensez que vous n'auriez jamais fait ce geste. Pourquoi ?
Attentats de 2015.
De 2015. Effectivement, oui, en fait, les attentats du Bataclan, ça a été extrêmement, pour moi, ça a été extrêmement violent, et ça a été aussi un déclic finalement, parce que On va dire que j'étais sur les réseaux sociaux, mais jamais je n'avais parlé de mon passé de salafiste. C'était quelque chose que je ne voulais pas raconter parce que ça faisait partie de mon passé et que j'essayais de me reconstruire et de vivre comme tout le monde parce que peut-être que je n'assumais pas encore ce passé. Finalement, quand j'ai vu la violence et quand j'ai vu les morts à la télévision, quand j'ai vu que c'était chez nous, que désormais la France était attaquée et que c'était extrêmement grave, eh bien j'ai décidé de, à ma manière, de dire que je refusais ce qui s'était passé, que j'étais contre, et j'avais compris le danger du salafisme qui prône le djihad armé, qui prône la haine des mécréants, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de parler, de dire voilà que j'étais une ancienne salafiste et qu'aujourd'hui j'assumais d'être une femme libre. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai été médiatisée. On m'a proposé d'écrire mon histoire dans un livre.
Le premier livre, j'ai décidé d'être libre.
Voilà, qui est paru aux éditions Flammarion. Mmh. Et ensuite, voilà, j'ai essayé de continuer ma vie normalement. Et puis avec ce secret aussi que... Voilà, que je portais, que je n'avais pas vraiment raconté. J'en avais parlé dans mon premier livre, sans donner le nom de mon agresseur, parce que j'étais pas prête à témoigner, j'étais pas prête à porter plainte. Et ce qui m'a poussée à dénoncer cet homme, c'est cette grande campagne contre les agressions sexuelles.
Voilà. Alors, justement, dans votre nouveau livre, au-delà de l'anagramme, vous faites un vrai lien, vous établissez un vrai lien entre le voile et le viol, entre le fait d'être voilé, le fait d'être violé. Quel est ce lien exactement que vous établissez? Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle nature il est?
En fait, de par mon expérience, j'ai mis des années en fait à comprendre qu'il y avait une sorte de pression psychologique sur les femmes, que finalement lorsqu'on est une fille quand on est musulmane, c'est très compliqué parce qu'on nous fait subir très tôt ce poids de la culpabilité d'être une femme, de la honte, ce poids de la virginité, qui est de l'honneur de la famille, et que le voile finalement c'est quelque chose de bien qui va préserver la jeune femme, et donc en fait on nous impose cette idée qu'on transmet de génération en génération. Et c'est vrai que moi j'ai compris, parce que mon agresseur me l'a dit lui-même, il me reprochait de ne pas porter le voile. Quand il y a eu cette agression, il m'a dit que c'était moi qui l'avais cherché, que je n'étais pas venue, je n'avais pas le voile, et que finalement tout était de ma faute. Et moi j'ai longtemps culpabilisé, j'ai longtemps cru que c'était vrai, que c'était de ma faute, et c'est pour ça que je n'ai pas porté plainte.
Parce Mais vous n'avez pas peur du coup de faire des généralités, disons, entre... Pour résumer, entre l'islam et le fait d'être le voile et le fait d'être
violée. En fait, c'est mon expérience. En fait, moi, je parle de mon expérience et c'est pour ça que dans le titre, je dis plus jamais voilée, plus jamais violée, parce que c'est ce que moi-même j'ai vécu et c'est ce que subissent beaucoup de femmes, notamment dans certains pays musulmans où lorsqu'une femme est violée, eh bien, elle est contrainte d'épouser son violeur. On leur fait vraiment porter ce poids de la culpabilité et de la honte parce qu'elle n'est pas assez couverte. Et donc, ce lien entre le voile et le viol, il existe vraiment. Et malheureusement, c'est ce que je veux dénoncer, c'est un tabou. On n'est pas habitué à voir des femmes musulmanes dénoncer un viol, c'est un tabou. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi j'ai décidé d'en parler et de faire ce lien entre le voile et le viol.
Par ce livre, donc pour conclure, Enda Ahery, vous dites ne plus vouloir laisser Tariq Ramadan et ses disciples semer le trouble dans les esprits et molester des femmes au nom de leur propre frustration. Vous entendez quoi par ce mot de frustration, rapidement?
Eh bien, en fait, y a un problème d'éducation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai décidé de peut-être d'éveiller les consciences quelque part avec mon témoignage et aussi avec l'association que j'ai fondée pour aider les femmes, justement, parce que je reçois énormément de témoignages de femmes qui ont été victimes de viols ou de voiles qu'on leur impose. Et quand je parle de frustration, effectivement, dans la tête de beaucoup d'hommes, notamment les hommes musulmans, en fait, ils ont l'impression que lorsqu'ils voient une femme qui n'est pas voilée, c'est un appel, c'est-à-dire que ces femmes-là sont facilement, en fait, ce sont elles qui font des propositions, c'est-à-dire qu'une
sexuelle.
C'est
vous
un message.
De frustration sexuelle.
Voilà, c'est un message qu'on envoie où une femme qui porte le voile en fait mérite le respect, et une femme qui n'est pas voilée en fait, eh bien, elle mérite le viol.
Voilà,
et donc
propos,
aujourd'hui, c'est un sujet important qu'il faut vraiment aborder dans les médias.
Et c'est ce que vous abordez dans votre livre. Donc, je le rappelle, merci Enda Ahery. Ce livre, Plus jamais voilée, plus jamais violée, aux éditions de l'Observatoire. La météo, enfin, avec quatre départements qui restent en vigilance orange pour des risques de de crues et d'inondations. Il s'agit de l'Eure, de l'Eure-et-Loire, du Tarn-et-Garonne et des Landes. Plus généralement, le temps cet après-midi sera pluvieux du sud-ouest à la Bourgogne et plutôt ensoleillé ailleurs, avec des températures qui s'échelonnent entre 16 degrés à Brest et 26 à Marseille. Cette édition était réalisée par Yacine Bouzard. À 18h, vous retrouvez Benoît Bouscarel pour le prochain journal.